Nous recevons Marlène Lebrun, qui est actuellement et depuis 2013 professeure à la HEP Béjune, agrégée de l'aide moderne et titulaire d'une habilitation dirigée des recherches. Elle a passé de nombreuses années enseignée au niveau secondaire. Elle a également enseigné à l'Institut de formation des enseignants de Lyon, à l'Université de Provence et à l'Université Laval au Québec. Et donc, elle est actuellement professeure à Béjune et nous la recevons avec beaucoup de plaisir pour cette présentation.
Merci beaucoup. Je me fais un grand plaisir de partager avec vous quelques réflexions didactiques sur la poésie. Alors, j'étais un peu surprise de voir, interpellée par le titre de ce magnifique colloque, de ces trois magnifiques journées, les Assises internationales de la poésie, où il y avait la transitivité du terme transmettre la poésie. Voilà, nous pourrions en discuter. Je ne suis pas sûre que ce soit possible de transmettre la poésie. Alors, plus simplement, peut-être, je parlerai de partage. Et je vais parler d'une posture de formatrice, d'enseignant du primaire, du secondaire et du tertiaire, tout en étant informée par ma posture de chercheur, mais je vais d'abord parler en tant que formatrice, si vous le voulez bien. Alors, pourquoi la poésie en classe? Je pense que c'est la question que l'on se pose toutes et tous lorsque l'on sait que personne ne lit de poésie, si ce n'est ceux qui en écrivent. Ce sont les constats, tristes certes, mais qui sont faits par les sociologues de la lecture. Les élèves lisent de la poésie de manière contrainte, lorsque la poésie fait partie des curricula. Mais rares sont ceux qui lisent de la poésie pour le plaisir, et quand ils le font, c'est parce qu'ils en écrivent. Alors on sait avec Panloup, qui a montré que les collégiens avaient une tentation du littéraire, que beaucoup de filles, beaucoup de garçons à l'adolescence ont une écriture diariste, c'est-à-dire une écriture de journal intime, dans laquelle ils écrivent entre autres des vers. Là, une question d'étymologie de la poésie, c'est pas la peine bien sûr de la partager, poïenne, hein, qui veut dire création, on en a beaucoup déjà parlé ce matin. Vous connaissez également les travaux du structuraliste Jacobson, qui dans les années 60 a montré les différentes fonctions du langage, et entre autres la fonction poétique, dont je rappelle qu'il disait qu'il s'agissait de jouer sur la langue. Et ça, je le retiendrai tout au long de cette présentation. Pourquoi la poésie en classe? Eh bien, effectivement, parce que ça permet, ça promeut un nouveau rapport à la langue. Et pour les élèves qui sont parfois dans un rapport, non pas difficile, c'est le point de vue de l'enseignant, on va dire un rapport résistant, quand on est du côté de l'apprentissage, c'est très très intéressant de leur permettre de jouer avec la langue. Et l'on se rend compte que lorsqu'on en a des élèves qui ont des difficultés de, je mets les guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise de la langue, mais disons de maîtrise de la langue, eh bien travailler avec la poésie, écrire de la poésie, ça leur permet d'avancer et de construire un rapport positif à la langue. C'est bien sûr aussi un nouveau rapport au monde. Le poète boxe avec les mots. Vous savez tous que la connotation en dit beaucoup plus que la dénotation et ses définitions que l'on trouve dans le dictionnaire. Combien d'enseignants, et peut-être en ai-je fait partie sûrement, n'a pas répondu parfois à travailler avec le dictionnaire autour d'un poème? Or, on sait que lorsqu'on demande à un élève de chercher une définition d'un mot dans le dictionnaire, pour un texte de littérature en général ou pour un texte poétique, en général, on le détourne complètement d'un travail d'association, de lien, de connotation. La terre est bleue comme une orange. Pourquoi cet exemple qu'on connaît toutes et tous? Ben parce que le poète porte une vision du monde et il est souvent visionnaire. C'était le vers liminaire, c'est le vers liminaire du 7e poème qui s'intitule premièrement justement dans l'amour, la poésie, dont ma collègue Claudia vient de parler magnifiquement en nous narrant une magnifique expérience de rencontre de poèmes d'amour et en même temps de réflexion sur l'amour au XXIe siècle. La poésie fait partie du quotidien. Et peut-être que là, on va rencontrer de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices. Pourquoi fait-elle partie du quotidien ? Eh bien, parce que aujourd'hui, dans la publicité, ils se sont appropriés tous les procédés poétiques, rhétoriques, qui sont à la disposition, et ils les mettent en œuvre. Alors, un exemple très simple, on pourrait imaginer de donner en vrac des poèmes que l'on va aller chercher dans différents corpus, diachroniques, toutes les époques, synchroniques, aujourd'hui, tous les genres poétiques. Puis on va les donner en vrac dans le désordre. Et on va inviter nos élèves à rassembler ce qui leur semble pouvoir aller ensemble à partir d'un procédé poétique, dont on se gardera bien de donner avant la définition. On ne demandera pas, par exemple, de mettre ensemble des poèmes qui forment des dessins, comme les calligrammes, ou des poèmes qui jouent sur l'allitération. Donc on leur demandera simplement de mettre ensemble ce qui peut être mis ensemble et de justifier ensuite leur assemblage. Et à partir de là, de manière inductive, on va pouvoir mettre en évidence des procédés qui auront été véritablement découverts par les élèves et les définitions pourront arriver in fine. Ensuite, on verra que les chansons, les publicités, les slogans poétiques, on réinvestit l'ensemble de ces procédés poétiques. Et puis c'est très facile après de proposer aux élèves de rentrer dans ce jeu de la création à partir de ces procédés poétiques. Important également, me semble-t-il, de travailler sur les représentations liées à la poésie. Alors on sait aujourd'hui en pédagogie qu'on ne soupçonne pas les représentations qu'ont construites les élèves et qui parfois peuvent obérer tout le travail que l'on fait avec eux ensuite. Ils en savent beaucoup plus qu'on ne peut le penser. On est parfois très très surpris. Alors, quand on fait verbaliser les représentations, vous l'avez déjà fait, bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes, tout ce dont je parle, vous le faites. On se rend compte que pour eux, la poésie, c'est obligatoirement rimé, que la poésie, c'est obligatoirement des vers. Donc, ils ont une représentation de la poésie ancienne, traditionnelle, avant que le Victor Hugo torde le cou à l'alexandrin. Et de faire verbaliser ces représentations et que les élèves puissent en prendre conscience et se rendre compte qu'il puisse y avoir des représentations différentes dans la classe, ça c'est très très important. On va les travailler avec des questions ouvertes, pas des questions fermées. Il faut que les élèves soient à l'aise et puissent donner leur définition de la poésie. Et encore plus simplement, pourquoi pas ne leur proposer tout un panel de définitions, il y en a énormément, et on leur demande de choisir celle qui correspond ou qui correspondent le mieux à leur représentation liminaire. Et puis on va travailler, chemin faisant, on va construire un dispositif didactique, comme par exemple celui qu'on a écouté tout à l'heure, et puis à la fin on va revenir sur ces représentations, et certains vont se rendre compte que leurs représentations initiales ont évolué, sans qu'on leur impose nos représentations de lecteurs adultes ou d'enseignants, voire de poètes, pour certains, certaines d'entre nous. Alors je vais vous proposer maintenant quelques dispositifs de partage du sens, du partage de la création. Alors pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à travailler en didactique du français, en didactique de la littérature, j'ai travaillé avec Yves Rotter, alors ça fait déjà pas mal d'années, et on a d'emblée focalisé sur la perspective du sujet-lecteur qui recrée le texte, sur le débat interprétatif, et on était vraiment non pas dans l'intention d'auteur, non pas dans l'intention du texte, mais dans l'intention du lecteur, l'intentio lectoris, tout ce dont a parlé tout à l'heure Nathalie. Alors, j'ai été beaucoup informée par les travaux des sociologues de la lecture. Et ceci montre, à partir de Bourdieu, mais bien après également, que ceux qui lisent sont ceux qui ont un marché lectoral, un marché qui leur permet de partager leurs goûts. On le sait, les jeunes parlent de leur musique, parlent des films qu'ils vont voir, et c'est vraiment très très facile de faire de la classe un espace de rencontre entre les lecteurs, un espace de rencontre entre les textes et les lecteurs, entre les poèmes et les lecteurs, un espace où on va pouvoir échanger sur nos jugements de goût, le « j'aime », « je n'aime pas », parce que, qui devient ensuite un jugement de valeur. Alors, on sait aussi, avec d'autres sociologues comme Bernard Lahire, qui a travaillé sur les dissonances culturelles des individus, que parfois on peut être extrêmement expert dans une sphère culturelle, parce qu'on la travaille, et on a vraiment des pratiques élitistes, des pratiques très pointues, et puis sur le même individu, eh ben, il y aura des pratiques beaucoup plus populaires. Et qui sont tout aussi légitimes. Alors, je ne rentrerai pas dans la perspective des cultural studies, mais je pense important de prendre aussi en compte ces pratiques sociales de référence populaire qui ne sont pas panthéonisées, c'est un terme franco-français, qui ne sont pas académisées, institutionnalisées par l'école, mais qui ont une raison d'être et qui disent beaucoup. Les jeunes aujourd'hui slament, les jeunes rappent, donc ils ne sont pas très loin de nos univers poétiques. Et il faut vraiment le prendre en compte. Alors, comment partager? Il y a énormément de possibilités différentes pour partager. Alors, bien sûr, le débat interprétatif qui permet de mettre en œuvre des cercles de lecture dans lesquels la parole des uns et des autres a la même importance et où on va pouvoir exprimer ses premières représentations, ses premiers ressentis, comme on le fait lorsqu'on écoute une musique sur le texte poétique. Le journal de lecture dialogué, c'est un dispositif qui est très très connu maintenant, que j'ai pu développer déjà il y a une vingtaine d'années, qui vient des travaux des anglo-saxons, de quelqu'un qui s'appelle Monique Lebrun et qui avait travaillé sur le Wispond Journal. Alors, je l'ai redéveloppé en le faisant en sorte qu'il soit dialogué. Pas dialogué avec l'enseignant, dialogué entre les pairs de la classe. Et ça permet, en posant des questions très très ouvertes, les élèves... écrivent de manière heuristique, c'est-à-dire ils découvrent leurs pensées en l'écrivant. On les met à l'aise, il n'y aura pas d'évaluation certificative, il n'y aura pas d'évaluation de la norme, de la manière dont c'est dit. Ce qui importe, c'est d'être compris par les pairs. Et puis, on va réagir à différentes questions, par exemple des questions d'actualisation. À qui te fait penser ce personnage de ce poème dans la vie d'aujourd'hui ? Quel est le mot qui t'a le plus interpellé? Quel est celui que tu aimes le moins? Quel est le vers que tu préfères? Voilà, des choses qui ont l'air très simples. Et ce dont je parle, c'est intéressant, ça a été expérimenté, développé de la première âge, des débuts de la scolarité, jusqu'au secondaire 1, le secondaire 2 et le tertiaire. Hein, c'est pas focalisé, c'est pas infantilisant et focalisé uniquement sur un jeune public. Dans le journal de lecture dialoguée ou partagée, la page de vis-à-vis, qui n'appartient pas à l'auteur du journal, elle appartient aux pairs qui vont lire les commentaires du lecteur et qui vont réagir, partager, commenter, questionner. Et quand c'est un journal donc, qui peut traverser toute votre année scolaire, qui peut traverser un établissement, et qui n'est pas uniquement lié à la poésie, mais qui se prête très très bien à la poésie, à la littérature en général. Et on voit les élèves s'investir dans ce journal qui n'est pas évalué de manière certificative et qui leur permet de se relire et de prendre conscience de leur représentation, de leur manière de vivre, de partager un texte. Le cahier d'écrivain, alors j'ai déjà parlé de la tentation du littéraire de Marie-Claude Panlou, je n'y reviens pas. Le cahier d'écrivain, c'est un dispositif qui a été développé tout d'abord par Dominique Bucheton, qui a beaucoup réfléchi sur l'écriture, qui montre qu'à l'école, il faut sortir l'écriture communicative, mais c'est même pas la peine de l'exprimer ici, puisqu'en poésie, on n'est pas dans une écriture communicative. Et avec le cahier d'écrivain, on peut le transformer aussi en cahier d'écrivain partagé, dans lequel on va donner des inducteurs d'écriture liés au poème, qui permettent de créer aussi de la poésie, à choisir ou à choix, comme on dit en Suisse, au choix ou à choix, comme vous voulez, et l'élève va écrire, va s'emparer de sa page d'écriture quand il en a envie, et puis il y aura des moments dans la classe où ce qu'il a écrit sera lu par les pairs et qui pourront également mettre en œuvre une posture critique, de commentaires, de questionnements par rapport à ce qui est écrit. Et là, on développe une posture d'auteur parce qu'on n'écrit pas pour être corrigé, par un enseignant qui chausse ses lunettes orthographiques et syntaxiques, mais on écrit pour vraiment dire quelque chose, pour s'exprimer, éventuellement communiquer, mais pas avec un enseignant qui corrige. Et le fait que les pairs vous lisent, et dans la classe il y a du monde, ben ça génère une posture d'auteur et ça donne envie d'écrire. Et on sort de la souffrance de l'écriture qui vient souvent de l'évaluation ou de la peur de la page blanche. Le geste ontologique également est un dispositif didactique qui est très intéressant. En ce moment, je suis en train de le vivre dans un séminaire de recherche, action, formation, dans lequel se rassemblent des étudiants, des enseignants du primaire, du secondaire, des formateurs d'enseignants et aussi des chercheurs. Et cet éclectisme est très, très intéressant. Et comme on a travaillé 3 années durant sur le loup, on essaye de produire, réaliser un florilège, une anthologie autour du loup. Le geste ontologique est très intéressant. Je me rappelle par exemple d'une classe, l'équivalent de la 10e, 11e H, qui a choisi le thème de la mort, parce que c'est un thème qui les interpelle autant que celui de l'amour. Et c'est pas un thème qu'il faut, question existentielle très vive, les adolescents vous sont reconnaissants quand vous l'abordez avec eux. Et puis ils sont allés chercher via le numérique un corpus, et à partir de là ils ont présenté des poèmes qui étaient en lien avec ce thème, et ils ont dit les raisons de leur choix. J'ai vu aussi des élèves travailler sur les poèmes de l'enfance de Victor Hugo, beaucoup plus jeunes au niveau du primaire. Il y a longtemps également, une anthologie des Fables de La Fontaine où des élèves de primaire de 7 ans avaient lu l'ensemble des 240 Fables de La Fontaine. Sauf ceux qui ont travaillé sur La Fontaine, personne n'a lu ces 240 fables, bien sûr ensemble, et après ont proposé une anthologie, un florilège sur les poèmes, les fables qui les avaient le plus interpellés. Et là, on se rend compte que peu importe l'obstacle de la langue, d'une langue qui est d'autant plus obsolète qu'elle date du XVIIe siècle, c'est le ressenti par rapport à un poème qu'on entend et qui fait obligatoirement du sens, même si on ne comprend pas tout. Ces outils que je vous présente sont des outils transversaux qui sont intéressants également dans la classe de littérature. Je continue avec la lecture à haute voix. Alors, c'est vrai que Siméon a travaillé beaucoup sur la lecture à haute voix. Moi, j'étais pas mal informée par le travail de Georges Jean, qui est un petit peu plus ancien, Nathalie, tu dois connaître bien, et qui fait bien la différence entre la lecture à haute voix et la lecture à voix haute. Et puis alors lui, il défend la thèse selon laquelle il ne faut pas surinterpréter un poème. On n'est pas dans la performance poétique, qui était magnifique tout à l'heure, la performance poétique paumée, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais quand on fait lire à haute voix ou à voix haute, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, un poème, Georges Jean conseille de simplement le dire de manière neutre pour laisser la place au lecteur. Et souvent, nos lectures magistrales qui ont été préparées, elles empêchent le lecteur de vivre le texte, de l'interpréter et d'y entrer, parce qu'on les interprète trop. D'ailleurs, hier, dans la performance poétique à laquelle j'ai été conviée et qui m'a beaucoup interpellée, j'ai vu que selon les poètes qui étaient en scène, il y en a qui surinterprétaient plus et d'autres moins. Et ceux qui le faisaient beaucoup moins laissaient beaucoup plus de place au lecteur et le mettaient en appétit d'entendre, de lire, d'écrire peut-être aussi. Vertu apéritive. Alors, bien sûr, de la musique avant toute chose, j'ai repris les derniers vers de ce fameux poème de Verlaine. Et puis aussi, on sait l'intérêt avec les élèves de les mettre en contact avec un poème par la lecture offerte. Poésie, c'est l'oralité. Souvent, les enseignants, ils donnent de l'écrit aux élèves et ils les laissent dans une sorte de texte à tête, solipsisme, solo, tout seul. Et puis, les élèves se sentent complètement désemparés, d'autant plus quand ils arrivent au secondaire 2. Et ça les bloque, et ensuite la poésie pour eux c'est quelque chose de très très scolaire et qui est incompréhensible et vers laquelle ils n'iront plus jamais dans leur vie d'adulte, sauf des clics particuliers. La lecture offerte, c'est quelque chose d'intéressant, on peut la travailler avec des élèves, et j'ai pu développer un dispositif qui s'appelle le montage récitatif et qui permet aux élèves par groupe de travailler le dit d'un poème en se partageant les vers, en les enchaînant les uns aux autres. Donc ils apprennent à, si on peut dire, scinder le poème à des endroits qui leur semblent propices, et en même temps, ça leur permet de retenir que certains vers, et donc ils sont en décharge cognitive, il n'y a pas de surcharge mnémotechnique, puisqu'ils se partagent les vers et l'ensemble du groupe dit l'entièreté du poème. Ils le disent par cœur, mais ce n'est pas le psittacisme du perroquet qui dit sans cœur, ils le disent avec cœur. Et le montage récitatif, c'est quelque chose qui marche très très bien dans les classes parfois très très résistantes à la poésie. C'est quelque chose que vous trouverez en particulier dans le livre de Georges Jean. Je vais vous proposer un poème de... J'ai peut-être pas autant de photocopies que vous êtes dans la salle, mais il y en aura au moins une pour deux. Lundi, rue Christine, qui fait partie du recueil Calligramme. Pourtant, vous verrez, c'est pas vraiment un calligramme d'Apollinaire. 1918, et lundi, rue Christine a paru un petit peu avant 1913, mais finalement, peu importe. Combien de temps me reste-t-il, s'il vous plaît ?
5 minutes.
5 minutes. Donc, je ne vais pas lire le poème. Je vais juste vous montrer le travail qui a été réalisé autour de ce poème. C'est vraiment dommage de dire l'inverse, de vous mettre en situation de lecture, alors que tout à l'heure, je viens de dire qu'il ne faut jamais le faire avec la poésie. Mais c'est vrai que le temps passe vite. Donc, on a un poème qui se présente comme des bribes de conversation. Et... c'est intéressant, sachant que l'anagramme de lire, c'est justement lier. Voilà comment on peut faire émerger du ressenti autour de ce poème. Je m'appuie sur une expérience menée à Genève, dans une école de culture générale, des ECG. Donc ce ne sont pas des élèves particulièrement qui ne vont pas s'orienter vers la matu et qui sont assez résistants par rapport aux textes littéraires et aux textes poétiques. Alors déjà, avant de lire le texte, on va poser cette question de qu'est-ce qu'on peut dire sur sa mise en page, voilà. Sans bien sûr parler de calligramme, de définition. Et puis, très simplement, recopier un à deux passages qui vous interpellent et un à deux passages qui ne vous plaisent pas, avoir le droit de ne pas aimer. Parce qu'à l'école, on est toujours dans l'éloge funèbre d'un texte qui a été choisi par un enseignant et que l'on doit aimer. D'où problème. À partager, alors, vous pouvez relire en partie ou en entier, c'est-à-dire que la première lecture n'a pas été obligatoirement complète. Qu'est-ce que vous évoque ce texte? À quoi vous fait-il penser? Pourquoi? Et puis c'est là qu'on va simplement introduire le poème, le titre, pardon, poème conversation, et on va demander aux élèves ce qu'ils pensent de ce titre, s'il leur semble correspondre à leur horizon d'attente. Et puis on va donner des exemples précis pour justifier cet avis. Si vous le faites avec le journal de lecture dialogué, tout le monde peut penser sur cette question. Par contre, si vous le faites à l'oral, c'est ceux qui osent prendre la parole ou les plus rapides dans la réflexion qui vont, et ce n'est pas obligatoirement partagé par l'ensemble de la classe. Nous, on est contents, enseignants, on a l'impression que tout le monde participe, mais c'est souvent un leurre. L'apprentissage prend du temps et l'écriture permet ce temps de la réflexion. Alors voilà aussi, avec les bidochons, on va demander aux élèves d'investir ces phylactères, ces bulles, avec des bribes du poème d'Apollinaire. Voilà, une forme d'actualisation. Vous ne voyez pas bien les dessins, donc c'est assez rigolo, parce que là on a des gens de milieu très très populaire, des beaufs, comme on dit en France, et les élèves peuvent investir. Mais ça se passe à Genève, hein, bien sûr. C'est bien que Genève, c'est, pour les Suisses, c'est parfois pas la partie française. Mais c'est un autre problème. Quand je suis arrivée à la HEP Béjune, j'avais d'abord travaillé à Genève, on m'a dit, mais Genève, c'est pas la Suisse. Pour me rappeler que j'étais française. C'est juste une anecdote. Ce que je peux dire à propos de ce poème, alors voyez comment cet enseignant, qui s'appelle Pascal Bassigny et qui travaille à Genève, a proposé à ses élèves de... Ce que je peux dire à ce... Donc, il y a eu des groupes sur les sons, sur la syntaxe, sur la disposition graphique, sur le sens, sur l'énonciation. À partir de là, ben, on met en commun et rien n'est... Il n'y a pas une hypothèse de lecture qui va partir de l'enseignant. Et cette hypothèse de lecture, on ne va pas demander aux élèves d'être des détectives qui vont chercher très précisément les indices pour corroborer l'hypothèse. Non, les hypothèses, elles vont émerger de ces premiers ressentis, de ces premières recherches partagées sur le poème. Alors, on va bien sûr vers la réécriture, des trinomes sont formés. On demande aux élèves de découper le texte en 10 morceaux. Et puis, on va réécrire un poème conversation en travaillant sur deux liens de sens, deux liens sonores, un lien syntaxique. Mais on va les justifier, ces liens. Voilà, pour montrer que ce n'est pas dû complètement à l'aléatoire. Quoique, on va essayer de les justifier dans la marge en les indiquant à l'aide d'une flèche. Et puis, bien sûr, on va en proposer une lecture à l'ensemble des élèves. Pour arriver ensuite, c'était une réécriture, une sorte d'écriture à la manière de, puis je vais terminer, pour arriver à la création du poème Conversation, où là, et ça, ça marche particulièrement bien, on l'a fait aussi en formation continue avec des enseignants du secondaire, avec un poète nouvelliste qui s'appelle Antonin Moëri, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc, les élèves étaient invités pendant une semaine à recueillir des bribes de conversation. Puis vous savez, vous qui êtes des créateurs parmi vous, des bribes de conversation qu'on entend comme ça dans le métro, dans l'autobus, dans la rue, dans le restaurant. Et puis après, on va les sélectionner dans le groupe, on va réécrire un poème en faisant ces liens qui ont été travaillés tout à l'heure dans la réécriture, et puis ça donne un poème conversation. Plus à la manière de Victor Hugo, puisque là, ça s'appuie sur des bribes de conversation colligées, collectées dans la rue. C'est vraiment un incontournable, la poésie, vraiment, me semble-t-il, dans la classe de littérature. Et peut-être que ces simples dispositifs didactiques présentent des possibilités de réconcilier les élèves avec la poésie. Parce que c'est vrai que quand ils quittent l'école, on est tous très très déçus, et même quand, par rapport à la littérature en général, je suis en train de faire actuellement une recherche sur la biographie culturelle des futurs enseignants, on a pris deux entrées, la musique et la littérature. Ben, au niveau musique, effectivement, il y a une culture qui est extrêmement riche, mais au niveau de la littérature, c'est vraiment consternant de voir qu'il ne reste pas grand-chose de leurs lectures académiques, que pour eux, c'était des lectures contraintes, des lectures imposées, et que pour la plupart d'entre eux, ils ne lisent plus ces futurs enseignants, tant du primaire que du secondaire. C'est assez interpellant. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie de m'excuser si j'ai un peu dépassé le temps qui m'est imparti, et puis peut-être des questions et des commentaires.
Merci beaucoup Marlène pour cette présentation très riche.